Chapitre 3. Habitants du désert. Comme nos destinées sont profondément influencées par les causes les plus futiles, si l'entrepreneur inconnu qui avait bâti et qui possédait ces nouvelles villas s'était borné à construire chacune d'elles sur un lot spécial, il est probable que chacun des trois petits groupes d'habitants eût à peine soupçonné l'existence des deux autres et qu'il ne se serait présenté aucune occasion capable de produire l'action et la réaction qu'il s'agit ici de faire connaître. Mais il y avait un lien qui les unissait les uns aux autres. Pour se singulariser entre les autres bâtisseurs de Norwood, le propriétaire avait imaginé et installé une pelouse commune pour le lawn tennis. Elle s'étendait derrière les maisons, avec ses filets tendus sur des piquets, son gazon vert et coupé ras, et ses longues lignes blanchies à la chaux. C'était là que le jeune Hay Denver venait chercher le rude exercice corporel, aussi nécessaire que l'air ou la nourriture au tempérament anglais, lorsqu'il était délivré de son travail de la cité. C'était là aussi que venaient le docteur Walker et ses deux jeunes filles, Clara et Ida. C'était là, enfin, que venait, en champion de la pelouse, la veuve aux courtes jupes et son athlétique neveu. L'été n'était pas encore passé et l'on se connaissait déjà mieux dans ce coin tranquille qu'on ne l'aurait fait après des années de relations plus guindées et plus formalistes. C'était surtout l'amiral et le docteur qui appréciaient ce proche voisinage et cette intimité. Chacun d'eux avait un vide dans son existence, ainsi qu'il doit arriver à tout homme qui se retire de la grande lutte pour la vie avant l'épuisement complet de ses forces. Chacun d'eux était ce qu'il fallait à l'autre pour remplir ce vide par sa société. Sans doute, ils avaient fort peu de terrain commun, mais parfois, c'est une circonstance favorable plutôt qu'un obstacle aux amitiés. Ils avaient, l'un et l'autre, aimé passionnément leur profession et ils lui gardaient tout leur amour. Le docteur continuait à lire d'un bout à l'autre sa Lancette et son Medical Journal, ne manquait pas une des réunions professionnelles, se mettait alternativement dans un état d'enthousiasme et de dépression à propos des résultats d'élection de dignitaires du corps médical. Il s'était aménagé une petite tanière dans laquelle étaient alignées des rangées de petits flacons ronds contenant de la glycérine, du baume de Canada, des réactifs colorants. Il persistait à faire des coupes avec le microtome, à épier les arcanes de la nature à travers son long microscope de laiton de construction ancienne. Avec sa figure professionnelle, lèvres et menton ras, bouche ferme, mâchoire inférieure forte, regard posé et ses deux petites pattes de lapin blanche, il était impossible de le prendre pour autre chose que ce qu'il était, c'est-à-dire un médecin consultant anglais de haute distinction, âgé de 50 ans, ayant peut-être dépassé cet âge d'un an ou deux. Le docteur, au temps de sa prime jeunesse, avait enduré avec froideur de grandes alertes, mais maintenant qu'il était retiré, il menait grand bruit pour des bagatelles. Lui qui avait fait des opérations sans qu'un doigt lui tremblât, alors que non seulement la vie de son patient, mais encore sa propre réputation et son avenir étaient en jeu, il était agité jusqu'au plus profond de l'âme au sujet d'un livre égaré, des distractions d'une bonne. Il remarquait lui-même cela et en savait la raison. « Quand Marie vivait, disait-il, elle se mettait entre moi et mes petits soucis et je pouvais me tenir tout prêt pour tenir tête au gros. Mes filles sont les meilleures filles du monde, mais qui peut connaître un homme mieux que ne le connaît sa femme ?» Et alors, sa mémoire évoquait une mèche de cheveux bruns et une main amaigrie et blanche posée sur la couverture. Il sentait, comme nous l'avons tous senti, que, si nous ne continuons pas à vivre et à nous connaître après la mort, c'est que nous sommes joués et trahis par toutes les espérances les plus élevées, par les intuitions les plus subtiles de notre nature. Le docteur avait des compensations pour le consoler de la perte qu'il avait faite. Les grands plateaux de la destinée avaient été également chargés pour lui, car où trouver dans l'immense Londres deux jeunes filles plus douces, plus aimantes, plus intelligentes, plus sympathiques que Clara et Ida Walker? Elles avaient tant d'entrain, elles étaient si douces, elles s'intéressaient tant à ce qui l'intéressait lui-même, que s'il était possible à un homme de recevoir une compensation pour la perte d'une bonne épouse, assurément, Balthazar Walker l'avait obtenue. Clara était grande, mince et souple, et avait une tournure gracieuse de femme faite. Il y avait dans son port quelque chose d'imposant et de distingué, un port de reine, disaient ses amis, tandis que ses critiques la représentaient comme réservée et pleine de froideur. Quoi qu'il en fût, cependant, cette manière d'être lui était inhérente. Dès son enfance, elle avait toujours été différente des personnes qui l'entouraient. Elle pensait avec son intelligence à elle, voyait avec ses yeux à elle, agissait d'après ses tendances personnelles. Sa figure était pâle, frappante plutôt que jolie, mais avec deux grands yeux noirs qui vous interrogeaient d'un air sérieux, qui changeaient si vite d'expression pour passer de la joie à l'émotion et qui commentaient si activement tout ce qui se disait ou se faisait autour d'elle, si bien que ces yeux-là, à eux seuls, exerçaient plus d'attraction que toute la beauté de sa jeune sœur. Son âme était forte et calme. Ce fut sa main ferme qui, à la mort de Mrs. Walker, s'empara des attributions maternelles, qui maintint l'ordre dans la maison, les domestiques à leur place, réconforta son père et fut le soutien de sa sœur, créature faible depuis le jour de ce grand malheur. Ida était plus petite d'un travers de main que sa sœur Clara, mais elle avait la figure un peu plus pleine et les formes plus arrondies. Elle avait la chevelure d'un blond clair, des yeux bleus malins, au fond desquels brillait toujours une étincelle de gaieté, une grande bouche parfaitement formée, avec ce léger relèvement aux extrémités qui accompagne un caractère finement doué pour apprécier une bonne plaisanterie et qui, même au repos, laisse entrevoir un sourire caché dans les coins des lèvres. Elle était moderne depuis les semelles de ses mignonnes bottines à hauts talons, ne cachait nullement son goût pour la toilette et le plaisir, était passionnée du tennis et de l'opéra comique, enchantée de danser, ce qui ne lui arrivait que rarement, toujours à l'affût de quelque émotion nouvelle. Néanmoins, derrière cette façade un peu légère de son caractère, on trouvait la jeune fille anglaise de nature foncièrement bonne, d'esprit profondément sain. C'était elle, la vie et la joie de la maison, l'idole de sa sœur et de son père. Telle était la famille qui habitait le numéro 2. Encore un coup d'œil dans la dernière villa et nos présentations seront achevées. L'amiral A. Denver n'appartenait point à cette école de loups de mer à mine florissante, à chevelure blanche, aux façons cordiales que l'on trouve dans les romans plutôt que dans l'annuaire de la marine. Loin de là, il réalisait un type bien plus répandu et qui est l'antithèse du marin de convention. C'était un homme maigre, aux traits durs, à la figure ascétique en lame de couteau, à la chevelure grisonnante, aux joues creuses et complètement rasées, à l'exception d'un mince demi-cercle de favoris couleur de cendre. Un observateur, habitué à répartir les gens par catégorie, aurait pu le prendre pour un chanoine de l'église qui aimerait à porter le costume laïque et à habiter la campagne, ou bien pour le directeur d'une importante école publique qui prendrait part aux amusements en plein air de ses élèves. Il avait les lèvres d'un dessin ferme, le menton saillant, le regard dur et sec. Ses manières étaient précises, méthodiques. 40 ans d'une austère discipline l'avaient rendu réservé et silencieux. Toutefois, quand il se trouvait en compagnie d'un égal, il savait prendre aisément un air bien différent de celui qu'on arbore à la dunette et possédait un stock de petites histoires en 3 lignes sur le monde et ses mœurs qui ne manquaient pas de piquant, venant d'un homme qui avait traversé tant de phases de l'existence. Osseux, décharné, aussi maigre qu'un jockey, aussi compact que de la corde à fouet, on le rencontrait tous les jours, la canne de rotin à pomme d'argent à la main, arpentant les routes de la banlieue, de ce même pas mesuré, duquel il avait jadis parcouru la poupe du vaisseau qui portait son pavillon. Il avait sur la figure un chevron qui attestait ses bons services, car une de ses joues était toute pointillée ou rayée de cicatrices, due à un jet de gravier soulevé par un boulet 30 ans auparavant, alors qu'il servait dans la batterie de Lancastre. Il n'en était pas moins plein de verdeur et de sève, et bien qu'il fût de 15 ans l'aîné du docteur, il eût pu passer pour son cadet. L'existence de Mrs. Haydenver avait été des plus agitées, et les épreuves qu'elle avait traversées sur Terre représentaient une somme de patience et d'abnégation plus élevée que les épreuves maritimes de son mari. Ils avaient passé ensemble les 4 premiers mois qui avaient suivi leur mariage. Puis était arrivée une séparation de 4 ans, pendant laquelle il avait croisé, entre Sainte-Hélène et la côte des Palmes, dans une canonnière. Ensuite était venue une année de tranquillité et de bonheur domestique, suivie de 9 années de mer, sans autre interruption qu'un trimestre, et dont 5 s'étaient passées dans la station du Pacifique et 4 dans celle des Indes orientales. Alors, c'était un répit sous la forme d'un service de 5 ans dans l'escadre de la Manche, entrecoupé de congés périodiques. Puis, il avait dû passer 3 ans dans la Méditerranée et 4 ans à Halifax. Cette fois enfin, les vieux époux, qui étaient restés presque toute leur vie séparés, étaient réunis, établis à Norwood, où leur existence si ballottée, si agitée, promettait du moins un couchant plein de douceur et de repos. Mrs. Haydenver était une personne de haute taille et corpulente, avec la figure agréable, dans sa rondeur et ses couleurs de santé, avec des façons avenantes de matrone protectrice. Toute sa vie s'était passée en actes de dévouement et d'affection qu'elle répartissait entre son mari et son fils unique, Harold. C'était pour ce fils que la famille restait à Norwood, car l'amiral aimait plus que jamais les navires et l'eau de mer et était aussi heureux sous les voiles d'un yacht de 2 tonnes que sur le pont de son cuirassé de 16 nœuds. S'il avait été libre, il aurait certainement préféré les côtes du Devonshire ou du Hampshire. Mais Harold était là et l'intérêt de Harold était leur principale préoccupation. Harold avait alors 24 ans. 3 ans auparavant, un ami de son père, le chef d'une importante maison de bourse, s'était chargé de lui et l'avait lancé en plein dans les affaires de bourse. Lorsqu'il eut payé ses 300 guinées de droit d'entrée, fait agréer ses 3 répondants de 500 livres chacun, que son nom eût été inscrit par le comité, enfin, lorsqu'il eut accompli toutes les autres formalités, il se trouva, unité insignifiante, emportée dans le tourbillon du marché financier du monde. Là, sous la direction de l'ami de son père, il fut initié au mystère des taureaux et des ours, aux us bizarres de la bourse, aux complications de la prime et du report. Il apprit à connaître les bons placements pour les capitaux de ses clients, lequel des coulissiers accepterait d'acheter de la Nouvelle-Zélande, lequel ne voulait rien d'autre chose que des chemins de fer américains, sur quel point devait porter sa confiance ou sa réserve. Il s'assimila ces détails et bien d'autres, et y parvint si bien qu'il ne tarda pas à faire de bonnes affaires, garda les clients qui lui avaient été adressés et s'en attacha de nouveau. Mais cette besogne ne fut jamais à son goût. Il avait reçu en héritage de son père l'amour de l'air, du ciel, la préférence pour un genre de vie viril et naturel. Remplir le rôle d'intermédiaire entre l'homme qui court après la richesse et cette richesse même, ou celui du baromètre animé qui enregistre la hausse et la baisse de la grande pression du marché de Mammon, ce n'était point la tâche en vue de laquelle la Providence avait mis sur cette charpente solide ses larges épaules et ses membres vigoureux. Et sa figure brune pleine de franchise, avec son nez grec bien droit, ses yeux bruns largement ouverts, sa tête ronde, couverte de cheveux noirs et bouclés, tout cela désignait un homme taillé pour un actif travail physique. Cela n'empêchait pas qu'il fût fort bien vu de ses collègues, les boursiers, qu'il fût fort aimé chez lui, mais il se sentait en proie à une continuelle agitation intérieure, et sa pensée était continuellement en guerre avec le milieu qui l'entourait. « Savez-vous, Willy ?» dit un soir Mrs. Denver, debout derrière la chaise de son mari, et une main sur l'épaule de celui-ci, « je m'imagine parfois que Harold n'est pas heureux. »« Il a l'air heureux, le jeune coquin !» répondit l'amiral en le montrant du bout de son cigare. C'était après-dîner, et par la porte-fenêtre ouverte du salon, on avait une vue complète de la pelouse du tennis et des joueurs. Une série venait d'être terminée, et le jeune Charles Westmacott lançait les balles aussi haut qu'il pouvait le faire au milieu du terrain. Le docteur Walker et Mrs. Westmacott allaient et venaient sur la pelouse, la dame brandissant la raquette comme pour accentuer les remarques, le docteur penchant la tête pour l'écouter et approuvant de quelques hochements. À l'autre bout, Harold, en complet de flanelle, adossé à la grille, causait avec les 2 sœurs qui l'écoutaient debout, projetant leurs longues ombres noires derrière elles. Les jeunes filles étaient vêtues de la même façon, de jupes de teinte foncée, avec de légères blouses de tennis de couleur claire, des rubans rouges à leurs chapeaux de paille. En sorte que, posées ainsi, avec le tendre incarnat du soleil couchant colorant leurs figures, Clara, réservée, tranquille, Ida, malicieuse et pétulante, formaient un groupe bien propre à séduire un critique plus exigeant que le vieux marin. « Oui, il a l'air heureux, maman !» répéta-t-il avec un rire en dedans. « Il n'y a pas si longtemps que cela, c'était vous et moi qui nous tenions ainsi, et je ne me rappelle pas que nous fussions si malheureux. » Dans ce temps-là, c'était le cricket qui était à la mode, et les dames ne prenaient pas des riz si serrés dans leurs jupes. En quelle année était-ce ? Mrs. Haydenver passa ses doigts dans la chevelure grise du marin. « C'était quand vous êtes revenu à bord de l'Antilope, juste avant d'avoir obtenu votre premier grade. » « Ah oui, la vieille Antilope, quel beau clipper ! Il pouvait obéir au vent de 2 points plus près qu'aucun autre navire de même tonnage qu'il y eut dans le service. Vous vous la rappelez, maman ? Vous l'avez vue entrer à Portsmouth ? N'était-elle pas une vraie beauté ?» Oui, c'en était une, chère amie, mais quand je dis que, selon moi, Harold n'est pas heureux, c'est de la vie quotidienne que je parle. N'avez-vous jamais remarqué combien il a l'air pensif à certains moments et combien il est distrait ? Il est peut-être amoureux le jeune matin. Il a l'air d'avoir trouvé un agréable amarrage pour le moment, en tout cas. Vous avez raison, dit d'un ton sérieux la mère. Willy, je crois la chose très vraisemblable. Mais de laquelle des deux ? Je ne sais pas. Et ce sont de charmantes filles, toutes les deux. Mais tant qu'il restera à flotter incertain entre les deux, la chose ne peut être sérieuse. Après tout, ce garçon a 24 ans et il a gagné ses 500 livres l'année dernière. Il est plus en état de se marier que moi quand j'étais lieutenant. Je crois que nous allons voir maintenant de laquelle il s'agit, dit la mère perspicace. Charles Westmacott avait cessé de jouer avec les balles de tennis et causait avec Clara Walker pendant qu'Ida et Harold Denver continuaient à bavarder près de la grille avec de petits éclats de rire de temps à autre. Bientôt, une autre partie fut engagée et le docteur Walker, qui cette fois-ci était hors de jeu, sortit par la porte à claire-voie et se promena dans l'allée du jardin. « Bonsoir, Mrs. Haydenver !» dit-il en soulevant son grand chapeau de paille. « Puis-je entrer ?»« Bonsoir, docteur. Entrez donc. »« Essayez un de ces cigares, » dit l'amiral en lui tendant son porte-cigare. « Ils ne sont pas mauvais. Je les ai eus à la côte des Mosquitos. Je songeais à vous héler par signaux, mais vous aviez l'air si content là-bas. » « Mrs. Westmacott est une femme très intelligente, » dit le docteur en allumant le cigare. « À propos, vous parliez à l'instant de la côte des Mosquitos. Avez-vous vu quelquefois Lila quand vous étiez par là-bas ?»« Pas de nom comme celui-là dans l'annuaire. Il y a l'Hydra, vaisseau à tourelles pour la défense du port, mais il ne quitte jamais les eaux du port. » Le docteur se mit à rire. « Nous vivons dans 2 mondes distincts, » dit-il. « Lila est la petite reine verte, » et Bill a établi certaines de ses vues au sujet du protoplasme d'après les apparences qu'offrent ses cellules nerveuses. C'est un sujet qui m'intéresse. Il y a dans les bois toutes sortes d'animaux désagréables. Quand je faisais le service du fleuve, j'entendais ce bruit-là toute la nuit, comme dans la chambre aux machines, quand on est astreint à tant de milles par heure. C'est un tel tapage de piaulements, de croassements, de sifflements que vous ne pouvez pas dormir. « Grosse côte, quelle femme que celle-là ! En 3 bonds, elle a traversé la pelouse. Autant jadis, on aurait fait d'elle un capitaine de la une de misaine. C'est une femme très remarquable. Une femme fortement timbrée. Une femme très raisonnable en certaines choses, » remarqua Mrs. Haydenver. « Voyez-vous ça maintenant ? » s'écria l'amiral en poussant au docteur une botte avec son index. « Retenez ce que je vous dis, Walker. » Si nous n'avons pas l'œil sur cette femme, elle soulèvera une révolte avec ses prédications. Voici que ma femme est déjà ébranlée et vos filles ne résisteront pas mieux. Il faut nous entendre, l'ami, ou ce sera la fin de toute discipline. Sans doute, elle a des façons de voir un peu exagérées, dit le docteur, mais au fond, je pense comme elle. Bravo, docteur, s'écria la dame. Quoi ? Vous voilà devenu traître à votre sexe ? Nous allons vous faire passer devant le conseil de guerre pour désertion. » Elle a parfaitement raison. Les professions ne sont pas suffisamment ouvertes aux femmes. Elles n'ont encore à leur portée qu'un trop petit nombre d'emplois. Ce sont de bien faibles créatures, les femmes qui sont obligées de travailler pour gagner leur pain. Des créatures pauvres, isolées, timides, qui reçoivent comme une faveur ce qu'elles auraient le droit de demander. C'est pour cela que leur situation n'est pas plus constamment sous les yeux du public, car si leurs cris d'appel à la justice étaient aussi forts que leurs griefs sont graves, ils rempliraient le monde à l'exclusion de toutes les autres. C'est très beau pour nous d'être courtois envers les riches, les gens raffinés, pour ceux à qui la vie a déjà été rendue aisée. C'est affaire de pure forme, un tour de main. Si nous étions véritablement courtois, nous nous arrêterions pour relever le monde féminin qui lutte, alors qu'il a réellement besoin de notre aide, alors que la question de l'obtenir et de ne point l'obtenir est pour lui une question de vie ou de mort. Et puis, ses propos conventionnels. À les en croire, il serait malséant pour une femme d'exercer une des professions libérales. Ce qui est bien séant pour elle, c'est de mourir de faim. Ce qui est malséant, c'est de tirer parti de l'intelligence que Dieu lui a donnée. N'est-ce pas une prétention monstrueuse ? L'amiral rit en dedans. « Vous êtes comme un phonographe, Walker, dit-il. Ce langage vous a été parlé. Maintenant, vous le répétez en le déroulant. Tout cela, du premier au dernier mot, c'est une pure levée de bouclier, car l'homme a ses devoirs et la femme a les siens, mais ils sont aussi distincts que leurs deux natures. Je me demande si nous n'allons pas bientôt voir une femme faire hisser son pavillon sur le navire amiral et prendre le commandement de l'escadre de la Manche. » « Et n'avez-vous pas sur le trône une femme qui commande à toute la nation ?» remarqua sa femme. « Et tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'elle s'en tire mieux qu'aucun homme. » L'amiral fut un peu ébranlé par ce coup droit. « Cela, c'est une toute autre affaire, dit-il. « Vous devriez venir à leur prochain meeting. C'est moi qui présiderai. Je viens justement de le promettre à Mrs. Westmacott. Mais il commence à faire froid et il est temps que mes jeunes filles rentrent. « Bonsoir, amiral. Je viendrai vous prendre après déjeuner pour notre promenade hygiénique. » Le vieux marin suivit des yeux son ami en clignant des yeux. « Quel âge a-t-il, mère ?»«
La cinquantaine environ. »
« Et Mrs. Westmacott ?»«
J'ai entendu dire qu'elle en a 43. »
L'amiral se frotta les mains et parut fort diverti. « Nous allons apprendre un de ces jours que 3 et 2 font 1, dit-il. » Je vous parie un chapeau neuf pour vous, mère.